De retour aux amateurs de sport, merci d'être avec nous en ce jeudi soir. Au cours des prochaines minutes, on va passer de bons moments et surtout apprendre à connaître une personne de plus en plus importante dans l'organigramme du Canadien de Montréal, d'Evenco et du Centre Bell en quelque sorte, c'est-à-dire France-Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive des Canadiens, la numéro 2 de l'organigramme en quelque sorte, chef des affaires commerciales. Nous l'accueillons en studio ce soir pour une première fois. Bonsoir France-Margaret.
Bonsoir Mario et merci de m'accueillir comme ça.
Ben, c'est un vrai plaisir de m'attendre au 7e étage du Centre Bell. Ça en fait du chemin de parcouru,
oui,
ça?
Oui, oui. Hein? Il y a eu quelques arrêts au travers de tout ça, mais bon, oui, ça fait loin de m'attendre au 7e étage du Centre Bell. C'est très le fun.
Est-ce que des fois, on se pince pour dire wow, parce que c'est un des emplois les plus prestigieux qu'on puisse retrouver au pays dans la business du sport et de l'entertainment. C'est passé par des études en droit, par la pratique, évidemment, en droit, puis de se retrouver maintenant dans cet environnement-là. Il y a des moments où, en tout cas, il y a de quoi être fier, certainement. La fierté, il y a eu le but de m'attendre, là, peut-être. C'est oui. La fierté de m'attendre.
Oui, c'est ça. En fait, je sais pas, emploi prestigieux, sûrement, mais emploi super le fun.
Ouais.
Sincèrement, Mario, oui, des fois, on se pince parce que je pense que j'ai la chance de travailler pour cette organisation-là qui a 110 ans, une organisation assez exceptionnelle, surtout menée par Jeff Molson, qui est vraiment un homme, en tout cas, avec qui c'est très agréable de travailler, un bon leader pour nous. Puis, on parle de hockey, on parle de entertainment, on parle de sport, oui. De spectacle. Alors, je pense que je suis très choyée et très chanceuse d'avoir ce poste-là, vraiment. Je pense à tous les jours.
As-tu grandi dans le monde des affaires dans ta jeunesse?
Ouais, j'ai grandi dans le monde des affaires. D'ailleurs, on a toujours une entreprise familiale dans le domaine de la construction, qui est basé maintenant, ça s'est commencé à Matane en 1960, je crois, ou plutôt en 1958.
Wow.
Maintenant, siège social est à Québec, au-delà de 2000 employés, vraiment. Alors, une belle business dans le béton et dans l'asphalte. Alors, j'ai entendu parler de ça à la table de souper, les affaires, presque à tous les jours.
Est-ce que c'est pour les besoins de l'entreprise familiale que tu as été tentée d'aller étudier en droit?
Oui, exactement. Au début, j'hésitais, ingénierie peut-être, ou droit. Puis finalement, mon frère était ingénieur, puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un cours en droit. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis pendant de nombreuses années, mon père, toutes les semaines, m'appelait puis me disait, bon, quand est-ce que tu te joins à l'entreprise familiale? Tu dois finalement commencer à connaître le droit. Puis je disais toujours, ah, tu sais pas, il me semble que ça me prend encore quelques mois, quelques années avant de parfaire mes connaissances. Puis finalement, d'une chose à l'autre, je n'ai jamais rejoint l'entreprise familiale. J'ai continué chez Steichmann, je suis devenue associée, puis par la suite, je me suis joint au Canadien.
Là, je fais un long saut dans le futur. Tu viens de le faire de façon accélérée,
oui.
Parce que l'entrée, je parlais de 2013 comme ton entrée en scène officielle au sein du Canadien de Montréal, mais je pense qu'il n'est pas faux de dire, en fait, il est tout à fait juste de dire que t'as comme un peu mis un pied dans la bâtisse, dans le processus de vente de George Gillette à Jeff Molson et son groupe.
Oui, exactement.
Tu peux nous expliquer quel rôle tu jouais à ce moment-là?
Oui, absolument. Mais en fait, ça va même plus loin que ça, parce que je te dirais, quand George Gillette a acheté l'équipe en 2001, il achète l'équipe de Molson à l'époque. Nous, chez Stagman Elliott, on a le mandat de l'acquisition par George. Donc, nous, on représente l'Américain, l'acquéreur, qui vient acheter notre joyau de la couronne ici à Montréal. Alors, c'est comme ça qu'a été ma première mise
en
matière.
Donc, tu ne représentes pas les intérêts du Canadien,
non,
à ce moment-là,
exactement.
Mais de l'acheteur.
De l'acheteur, exactement. Et donc, on a fait l'acquisition pour M. Gillette. Et puis, moi, j'ai fait tout le travail juridique essentiellement de 2001. Il a acheté, c'était le 26 juillet 2001. De juillet 2001 jusqu'à la vente en 2009, qui a eu lieu le 1er décembre 2009. Moi, je représentais les intérêts de Gillette. Et en effet, c'est nous qui avons eu l'appel de George Gillette quand, à un moment donné, à l'hiver 2009, il a décidé qu'il procédait à la vente de l'équipe. Puis on a fait avancer la vente. Puis c'est finalement Jeff Molson et son groupe d'acquéreurs qui a acheté. Et ça s'est conclu le 1er décembre 2009.
Et comment s'établit le lien avec Jeff Molson qui plus tard va t'offrir d'embarquer, ouais, avec lui à ses côtés, de devenir maintenant aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de son bras droit, si tu me permets d'utiliser le jargon du milieu. Donc, faut croire que il s'est pas senti lésé dans la transaction, en tout cas, ouais, certainement.
Ben, oui, on espère qu'il a trouvé que le contact était quand même bon.
Oui.
C'est sûr que quand on travaille vraiment pour notre client, là. Donc, moi, je représentais certainement les intérêts de notre vendeur qui était George Gillette et je le faisais avec mon ardeur habituelle et ma détermination. Puis, je pense que probablement que lui, comme acquéreur, avec son groupe de l'autre côté de la table, ont été probablement en mesure de voir ça aussi, parce que c'est sûr que nous, on travaillait dans les intérêts de notre vendeur,
ouais,
George, notre client. Et puis, par la suite, en fait, je suis retournée voir Jeff. Quand toute l'histoire avec George Gillette eut été complétée, la transaction s'est conclue et toutes nos choses avec George étaient vraiment terminées, je suis retournée voir Jeff Monson au Centre Bell, puis je lui ai dit, tu sais, Jeff, nous, chez Stegman, on connaît cette entreprise-là presque de fond en comble. Il y a un tas d'entreprises qui existent dans l'organigramme dont moi, je suis l'incorporatrice. C'est moi qui ai mis ça de l'avant. Et donc, tu devrais nous refaire confiance avec quelques dossiers. Et il l'a fait. Et c'est comme ça qu'on a repris beaucoup de travail juridique chez Stegman, une fois que les choses, comme je dis, eût été terminées avec George. Et de fil en aiguille, j'ai fait un tas de dossiers pour eux. Et puis, à un moment donné, il a décidé qu'il voulait avoir vraiment toute la fonction juridique à l'interne qui n'existait pas au sein du groupe CH, qui était un groupe qui prenait quand même pas mal d'ampleur. Et puis, c'est là que je me suis joint à l'organisation.
Je sais pas s'il y avait beaucoup de candidats pour l'emploi, mais de par tout ce que tu avais vécu dans la décennie ou les années qui avaient précédé, tu partais vraiment avec une longueur d'avance parce qu'il y avait l'impression d'engager quelqu'un, j'imagine, à qui il n'y avait pas tout à expliquer. Ça a été un immense avantage.
La fameuse expression en anglais, malheureusement, « hitting the ground running », c'était vraiment ça. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui s'appelait le transactionnel, toute la structure corporative de l'entreprise, les dossiers fiscaux, etc., c'est sûr que moi, ça faisait 10 ans que je faisais ça là, pour George. Alors, c'est sûr qu'on connaissait très bien ça. Je dis moi, mais je parle bien sûr de l'ensemble de l'équipe juridique chez Stegman. Alors, on est arrivé là-dedans comme si on n'avait jamais quitté, puis on a pu vraiment rouler à fond dès le départ. Fait que ça, c'était très bien pour tout le monde.
Cette voix est celle de France-Margaret Bélanger, notre invitée, vice-présidente du Canadien de Montréal, chef des affaires commerciales. Le Canadien, c'est immense. Je pense que si le Canadien, par exemple, rate les séries, j'en discutais avec mon patron Michel Tremblay, les gens sont plus sévères envers l'organisation qu'envers Desjardins pour une perte de données, par exemple, des choses qui vont les toucher très, très profondément. C'est quoi de sentir ça de l'intérieur, au-delà du juridique maintenant, parce que t'emmènes évidemment beaucoup plus large, puis aux côtés de Jeff Monson. Mais quand on vit ça de l'intérieur, c'est quoi vivre ça?
Ben, vous savez, on a des fans absolument exceptionnels qui adorent l'équipe et qui sont vraiment des supporters depuis des années et des années, même avant que je sois née. Et je commence à être pas mal vieille, alors c'est pas peu dire. Donc, ça fait longtemps.
Ça paraît pas.
Ouais. C'est ça. Mais tout pour dire, il y en a toujours de la pression, c'est sûr. On a la pression de gagner en commençant par notre propriétaire veut gagner, notre directeur général, Marc Bergevin, veut gagner, notre coach, Claude, Julien, toute l'équipe de coach, les joueurs veulent gagner. Alors, eux-mêmes se mettent cette pression-là, bien sûr, de gagner. Les fans veulent qu'on gagne. Alors, c'est sûr qu'on sent ça à l'interne, va sans dire, mais c'est ça notre travail. C'est ça qu'on fait dans la vie. On fait du hockey, puis on veut gagner. On veut bien faire, puis on veut bien faire pour nos partisans, on veut bien faire pour nous autres. Puis, on le sent aussi, on parle toujours du fameux 7e étage au Centre Bell. Au Centre Bell, au travers des étages, là où l'administration se situe, quand ça va bien, les gens sont de bonne humeur, on le sent. Tu sais, moi, j'ai rien à voir avec ce qui se passe sur la glace, vraiment pas. Mais en même temps, quand ça se passe bien sur la glace, on le sent, les gens sont de bonne humeur, c'est léger, on parle des victoires. On a eu des années, pour ne pas les nommer, où est-ce que ça a été plus difficile récemment, ça aussi, on le sent. C'est tough, tu sais, c'est pas facile. Donc, c'est sûr qu'on veut toujours que ça aille bien, puis on a beaucoup, beaucoup d'espoir pour cette année. On veut que ça commence bien, puis on a hâte que ça commence aussi.
Un des pièges quand ça va moins bien, j'imagine, c'est vrai dans une vie personnelle, fait que je pense que pour une organisation aussi, ça peut se produire, c'est que on a tendance à se recroqueviller un peu. Marc Bergevin s'est un peu exprimé là-dessus dans une entrevue qu'il accordait à Alexandre Pratt récemment dans la presse plus. Est-ce que entre le fait de se recroqueviller et le risque de faire en sorte qu'il y ait peut-être qu'on sente de l'extérieur une plus grande distance ou qu'on sente, comme Guy Carbonneau me l'avait exprimé à l'antenne, un mur? Est-ce qu'il y a quelque chose de délicat à gérer dans ça et à quoi il faut faire attention tout en respectant le fait que c'est sûr que c'est pas le fun de diriger une organisation quand t'as une année qui est vraiment de ça de tes attentes?
Mais non, c'est sûr, c'est la base. Puis ça, on fait pas de la psychologie après-midi, mais c'est l'être humain. Hein? Quand ça va pas bien, on se recule, puis on a tendance à être plus dans notre maison, puis on veut pas trop nécessairement s'exposer. On est moins disposé à ça, mais on a quand même des comptes à rendre, tu sais. Puis Jeff Monson en parlait justement à la fin de notre fameuse saison 17-18, où est-ce que ça s'est plutôt mal terminé. Il avait dit, Jeff, on va faire montre de plus d'ouverture, tu sais, parce que ça nous avait été un peu reproché, justement, suite à cette fameuse année-là, où est-ce que tout allait mal. Tu sais, on avait fini, je crois, en 28e position. Et Jeff l'avait promis qu'on allait être plus ouvert dans nos communications. Mm-hmm. Puis, on a certainement tenté de le faire. On a eu une nouvelle administration au niveau des communications qui est arrivée avec l'arrivée de mon collègue Paul Wilson. Et puis, c'est sûr que notre coach sort plusieurs fois par année. C'est mandaté par la Ligue. Mais notre directeur général, Marc, est sorti beaucoup plus souvent.
Oui.
Puis Jeff aussi. Puis on essaie, évidemment, les joueurs, on les rend disponibles autant qu'on puisse le faire. Puis, mais c'est sûr que cette tendance-là, quand ça va mal, de reculer un peu, on l'a. Mm. Puis c'est, en effet, faut se battre contre ça. Puis faut justement peut-être ouvrir davantage.
France-Margaret, Elisabeth Bélanger, c'est quoi le plus gros défi dans le rôle de vice-présidente, chef des affaires commerciales, peut-être au quotidien ou de façon annuelle? Je ne sais pas comment vous vous mesurez ou vous, si vous fonctionnez à la semaine. Je sais que, par exemple, les coachs fonctionnent par tranche de 5 matchs, de 10 points. Hey, ça prend 6, 7 points sur 10, mais vous autres, au 7e, toi, dans ton rôle, là, c'est quoi ton défi quotidien, le plus gros challenge?
Ben, c'est une excellente question, puis... En fait, c'est quelque chose d'assez simple. Puis, c'est que il y a cette bien, évidemment, en charge des revenus, on veut générer les revenus. On travaille. Je vais repartir de la base. On travaille avec nos partenaires corporatifs. Bien sûr, c'est la vente de billets, c'est la vente de loges, c'est de la vente de billets. Je parle billets de saison, billets individuels. C'est les droits de télé qu'on négocie. C'est les droits avec tous nos partenaires. Alors ça, bien sûr, c'est les plus grands dossiers. Puis, il faut être stratégique dans ce qu'on fait, bien sûr. Mais en même temps, un défi au quotidien. Puis, je suis contente que tu me poses la question parce que je peux le dire. C'est de laisser savoir aux gens qu'on a des billets à vendre. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, pendant des années, je crois qu'on ne discutait jamais du fait qu'on avait des billets à vendre, mais on en a. Il y a 21 302 sièges dans le Centre Bell. Et c'est vrai qu'il y a un très haut nombre de ces billets-là, un très fort nombre qui est détenu par nos détenteurs par les abonnés de saison. Mais il reste qu'à chaque match, on a quand même des milliers de billets à vendre. Puis, on a fait notre vente samedi dernier, notre fameuse... On a ouvert les portes à la vente samedi dernier, puis on a vendu des milliers de billets, bien sûr. Mais à chaque match, il reste des billets. Ne serait-ce que la Ligue nationale exige de chaque club que jusqu'à 2 heures la journée du match, on retienne autour de 100-120 billets pour les joueurs d'équipe adverse, les officiels, les membres de la Ligue nationale et tout un peu cet achalandage-là autour de la Ligue. Alors, on doit réserver un nombre de billets et je vous dirais que ça dépend des équipes, mais la grande majorité du temps, si on a 10, 15, 20 billets qui sont pris de ce lot-là, c'est beau. Alors, ça veut dire que le reste de ces billets-là, on doit les garder jusqu'à 2 heures. Donc, on les relâche la journée du match et souvent, ce sont de très bons billets. Alors, on en a des billets à vendre et puis il faut juste venir sur canadien.com ou sur notre application mobile puis venir voir puis acheter ça de chez nous parce que souvent, ça dépend des matchs bien sûr, mais...
On paye plus cher quand on passe par
exactement, on va payer
vendeurs,
plus cher,
par
absolument.
Les sites de revente ou
mais
la route.
Mais même des gens, j'étais au tournoi de golf lundi, puis des gens aussi connaisseurs de notre équipe de hockey que de nos anciens me disaient, ben voyons... Il n'y a jamais de billets à vendre pour le Canadien. Vous êtes toujours vendu. Je dis, on finit par être sold out ou on finit par être complet la journée des matchs. Mais en même temps, en amont de ça, jusqu'à la journée même, puis la veille, puis l'avant-veille, on a des billets à vendre. Et je répète, Mario, je suis contente que tu me donnes l'occasion de le dire parce que les gens croient, même ceux qui sont dans le domaine, que c'est impossible de se procurer un billet du Canadien chez nous.
C'est une perception ancrée, hein, solidement.
Oui.
Et je suis content que tu en parles avec autant de candeur puis de façon ouverte et affirmative parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était un point d'orgueil aussi pendant longtemps pour l'organisation de ne pas avoir besoin d'annoncer qu'il y avait des billets disponibles. Puis moi, je prétends depuis des années, puis je ne sais pas si on arrive là. Puis je me rappelle, je disais ça à mon premier séjour aux amateurs de sport, que le défi des organisations sportives dans... Là, écoute, on recule là, dans les années 2000, là, puis là, on est en 2019, fait que je pense qu'on est en plein dedans, c'est de convaincre les gens de se déplacer, quitter la maison, payer un montant quand même appréciable, peut-être la gardienne, le stationnement, puis là, l'univers de la construction qu'on a
et
à Montréal. Alors, puis vous devez le sentir quelque part que c'est devenu, je sais pas si c'est plus difficile de convaincre les gens de dire, venez nous voir, venez à Place Belle voir le Rocket, venez au Centre Belle voir le Canadien, venez voir l'Impact. Je pense que le défi est vrai pour toutes les organisations sportives. Le sentez-vous?
Ben, c'est un défi, certainement. Puis, évidemment, ça commence toujours par ce qui se passe sur la glace. Hein, on le sait.
Ben oui.
Les gens viennent au Centre Bell. Il y a eu une belle victoire. Ou, sinon, au moins, les joueurs ont joué. Ils ont démontré comme vraiment de l'énergie, de l'intérêt. Les gens sont contents. Ils ont une belle soirée.
Oui.
Puis, moi, ce que je dis souvent à mes équipes, parce qu'il y a les équipes au niveau des revenus, mais il y a les équipes vraiment de présentation de match, les équipes de marketing. Moi, je dis souvent, je veux que les gens qui viennent au Centre Bell ressortent du Centre Bell en se disant, sais-tu quoi? On a une belle victoire ou non, on n'a pas gagné, mais sais-tu quoi? On était content d'être au Centre Bell, puis avoir presque le feeling que si on y était pas, des fois, on manque quelque chose. D'où l'importance d'avoir revampé un peu l'an dernier, d'avoir mis de l'avant. Puis on le sait que c'est du hockey, puis on sait que c'est ça la priorité, puis on se fait pas d'idée là-dessus, mais en même temps, quand il y a des arrêts de match, des pauses dans les intermissions, qu'est-ce qu'on donne aux gens qui se sont justement, Mario, déplacés en auto, la gardienne, le stationnement, le trafic, la neige, qu'est-ce qu'on leur donne justement au-delà du hockey, que moi je ne contrôle pas, pour faire en sorte qu'ils passent une belle soirée. Puis c'est ça notre défi, puis on essaie de faire les choses un peu différemment, puis on a amené des nouveautés l'an dernier, oui. Puis on va encore en amener cette année.
Peux-tu nous en parler, justement? Est-ce que la phase 2, 3 là, des rénovations, la phase oui. de l'offre alimentaire qui a beaucoup oui. évolué, puis est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou
non,
prévoyez
non,
le
non.
fan?
Non, on va en parler.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au Centre Bell pour les gens qui vont aller faire un tour?
Ben, cette année, on a, ben, premièrement, on a eu notre nouvelle application mobile qu'on a lancée la semaine dernière. On a vraiment investi beaucoup pour faire une nouvelle application. Notre ancienne application, je crois, c'était le temps d'arriver avec autre chose. On a eu un super bon taux de réponse. On a eu, je crois que c'est 52 000 téléchargements ouais, depuis la semaine dernière. Alors ça, c'est quand même énorme. Alors, puis ça se poursuit. Alors, en tout cas, je vous invite à aller regarder ça puis aller télécharger ça. Un nouveau fil de presse intégré, c'est plus personnalisé. Puis il va y avoir d'ailleurs une phase 2 à cette application mobile-là qui va sortir au début octobre. Alors, quelque chose de vraiment très bien, je pense. Alors, puis d'ailleurs, on aime vos commentaires, alors vous nous ferez part de vos commentaires si on peut l'améliorer. On a beaucoup investi, puis on aimerait qu'elle soit vraiment au goût des partisans, puis si on peut faire mieux pour qu'elle soit au goût des partisans, on le fera. On a bien sûr, au niveau de l'offre alimentaire, on a un nouveau restaurant qui s'appelle le Canti. Offre italienne, bien sûr, vous l'aurez deviné, qui va se situer dans les murs de le Bar and Lounge, l'ancien Bar and Lounge de la mise au jeu. On a vraiment fait des rénovations. C'est très beau, ça sera très bon. J'ai fait des tests et je vous assure que c'est très, très bon. La cage au sport va rouvrir ses portes. Ils ont été fermés tout l'été pour vraiment refaire des investissements. Et on a fait des investissements majeurs pour renouveler un peu le restaurant, donner un look un peu plus moderne. Alors ça, je pense que ça promet, ça ouvre la semaine prochaine. Taverne 1909, grande taverne, 1400 places debout, plus grand écran géant au Canada. On a fait un partenariat avec Saint-Hubert. Alors, ça va être Taverne 1909 signée Saint-Hubert. La communication de presse a été lancée hier mercredi. Et donc, à voir. Donc, on va juste trouver certains plats de Saint-Hubert au niveau de la taverne le midi et le soir. Alors, on pense que ça va redynamiser notre offre-là. Il y a toujours le mythique ouvert depuis l'an dernier. Et on a une nouvelle promotion cette année parce que, vous savez, on en avait discuté, Mario, les matchs sont rendus à 7 heures. Donc, les matchs de semaine, ceux de week-end étaient toujours à 7 heures. Les matchs de semaine sont passés de 7h30 à 7 heures, sauf 5 matchs, parce que la Ligue et les partenaires médias nous ont demandé de maintenir 7h30 pour 5 matchs, ce qu'on a accepté de faire pour la Ligue et leurs partenaires médias. Mais on a une promotion au Centre Bell. Les gens qui arrivent tôt, entre 5 et 6, auront toutes sortes d'offres alimentaires à prix, en tout cas, vraiment des grosses promotions, je pense, sur la bière, sur la nourriture. Alors, à voir. Donc, nos portes seront ouvertes à partir de 5 heures au niveau des restaurants et 5h30, les portes générales du Centre Bell.
France-Margaret Bélanger est avec nous, vice-présidente, chef des affaires commerciales chez le Canadien de Montréal. France-Margaret, si tu me permets, je ferai juste une courte pause publicitaire. J'ai quelques questions en rafale et j'aimerais aborder, bien sûr, un sujet qui est incontournable avec toi, c'est-à-dire la place des femmes dans le monde du sport. Est-ce qu'on se sent seul parfois un meeting des gouverneurs où il y en a plus qu'on pense, entre autres questions, dans un petit moment. Nous sommes déjà de retour avec la numéro 2 de l'organigramme de direction du Canadien de Montréal, France-Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales. France-Margaret, dites-moi, est-ce que on se sent seul au meeting des gouverneurs de la Ligue nationale comme femme où il y en a plus qu'on pense autour de la table?
C'est drôle parce que Jeff Monson se prononçait là-dessus plus tôt cette semaine, justement. Il y a pas beaucoup de femmes pour dire les choses comme elles sont vraiment factuellement. Alors chaque équipe bien sûr est représentée, chaque équipe a un gouverneur. Dans notre cas, notre gouverneur c'est bien sûr Jeff Molson. Les équipes ont droit à un alternate gouverneur ou un gouverneur alternatif. Ça se trouve à être moi. Puis il y en a pas vraiment de femmes, à vrai dire, Mario. Les quelques femmes qu'on voit à ces rencontres-là, c'est au niveau de la Ligue nationale, l'administration de la Ligue, bien sûr, il y a Monsieur Bettman. Il y a Bill Daly. Et il y a maintenant Heidi Browning, quelqu'un qui est en charge là-bas de tous les aspects digitales de la Ligue. Enfin, il y a 2-3 femmes. Julie Grant, au niveau juridique, au niveau du personnel de la Ligue, il y en a, mais comme alternate governor, comme tel, il n'y en a pas. Puis des gouverneurs femmes, il n'y en a pas. Parce que le gouverneur, c'est vraiment le propriétaire. Et dans le moment, les propriétaires de ces 31 équipes-là et 32 bientôt, ce sont des hommes.
Je crois pas que c'est unique comme situation dans tout ce que tu as vécu dans ton parcours professionnel, parce que je pense que, par exemple, dans le monde du droit, ben il y a des femmes, il y a beaucoup d'avocates, mais dans le monde des associés d'une firme, par exemple, ça devenait plus rare. Donc, c'est quelque chose que tu as sans doute déjà apprivoisé. C'est peut-être une question que je vais poser de façon malhabile, mais je la lance comme à sort. Quand on est une femme et on est très conscient qu'on grimpe la hiérarchie d'un monde d'hommes, est-ce que on garde son côté distinct ou on est comme un peu one of the boys? Je sais pas si ça se demande de même.
C'est une excellente question. C'est une bonne question. Moi, je te dirais que, Mario, mon attitude là-dedans, puis mon approche vis-à-vis de tout ça, parce que t'as raison, chez Stegman, au début, dans un bureau d'avocat, il y a un tas de filles, mais au fur et à mesure que tu commences et t'arrives associé, tout ça, il y en a de moins en moins. Puis moi, j'ai été associée là 10 ans en fusion-acquisition. Puis c'est sûr qu'à la fin, on n'était pas une dizaine, il y avait très peu de femmes. Mais si moi, je commence à faire un cas de ça, puis à me préoccuper de ça, ben je pense que tout le monde va se mettre à se préoccuper de ça, puis faire un cas de ça. Alors, moi, j'ai toujours essayé d'être le plus compétente possible, puis offrir mon expertise au meilleur de ce que je pouvais le faire. Puis, pour ce qui est du reste, homme, femme, je ne me suis vraiment jamais trop préoccupée de ça, parce que je pensais pas que j'avais à gagner de commencer à me préoccuper de ça. C'est arrive, sois la meilleure possible, livre qu'est-ce que tu as à livrer, puis fais avancer tes dossiers. Puis c'est toujours ça ce que j'ai fait. Puis je dirais, Mario, le vrai champion de cette affaire-là, c'est vraiment Jeff Molson, qui, alors que lui-même est probablement un des propriétaires les plus jeunes de la Ligue nationale, parce que je les vois, ces propriétaires-là, au niveau de, à toutes les rencontres de la Ligue. D'ailleurs, on en a une le 17 septembre qui s'en vient à New York. Lui, comme un des très jeunes propriétaires, a décidé, qui me nommait, bien sûr, comme alternate governor. Alors, c'est vraiment lui qui ouvre la porte.
C'est quelque chose, hein? Première fois dans l'histoire du Canadien de Montréal.
Oui, puis dans l'histoire de la Ligue.
De la Ligue.
C'est lui, en fait, qui se met cette pression-là sur lui puis qui prend le risque. Wow. Alors, en tout cas, on essaie de pas trop décevoir puis on essaie de faire avancer nos dossiers.
Ben, j'aime beaucoup la réponse que tu nous fournis. Puis, dans le fond, je suis content de pas en avoir fait le premier sujet de notre entretien, de faire ta connaissance avant tout puis de parler. Quelques questions en rafale alors qu'on se dirige vers la fin, mais en rafale, prends le temps que tu veux pour chaque réponse. Mais en tout cas, c'est pas moi qui veut étirer l'entrevue, mais il y a un paquet de sujets qui me tente. On parlait du défi d'attirer les gens, de remplir le Centre Bell. C'est probablement le plus gros amphithéâtre, sinon le deuxième de la Ligue. Je sais pas, premier ou deuxième.
C'est le plus grand amphithéâtre, ouais.
Ça fait que beaucoup de sièges. Et je me demandais, est-ce qu'un jour, il va être trop grand?
Ah, c'est une bonne question. On voit pas ça comme ça. On peut compter sur une très solide base de détenteurs de billets de saison. On est très choyés de ça. Et puis, on essaie d'attirer les jeunes. On a des offres pour les étudiants. On a 12 matchs avec des étudiants cette année à un prix vraiment abordable. 42 $ plus, bien sûr, un bon produit Molson qui vient avec ça inclus. Alors, on est content d'être capable d'offrir ça. Non, on pense que c'est à nous de savoir comment attirer les gens. C'est à nous de faire la tarification en conséquence. Puis, on est content d'avoir, d'ailleurs, à 21 302 personnes, ça crée une ambiance du tonnerre.
Oui, extraordinaire.
Et même, je crois qu'il y avait un sondage de l'Association des joueurs qui était fait à la fin de la saison dernière. Puis les joueurs disaient, l'endroit vraiment où jouer avec l'atmosphère, c'est Montréal.
Le nom du Centre Bell, est-ce que c'est là pour durer ou un jour ça va changer comme on le voit avec d'autres amphithéâtres?
Le nom du Centre Bell, ça c'est un nom qui existe. En fait, le Centre
Bell. L'appellation des naming rights,
exact,
je veux dire. Là.
Le Centre Bell s'appelle comme ça depuis 2003.
Après le Centre Molson.
Exactement, c'est là qu'on avait fait cette transaction-là. D'ailleurs, j'étais impliquée à l'époque comme avocate chez Stegman.
Oui.
Et bien sûr, c'est une entente qui a une durée limitée. Et puis, on va voir à la fin de cette entente-là, la renégociation avec Bell.
Est-ce qu'un jour, une équipe de basketball de la NBA aura pignon sur rue de la Gauchetière?
Bien,
maintenant qu'il y a la rue des Canadiens,
oui,
c'est vrai.
Oui, la rue des Canadiens, exactement. Nous, on aimerait ça. Hein, un gros amphithéâtre comme ça, nous, on l'occupe avec le hockey. Evenco, il fait des spectacles. Mais si on pouvait avoir une autre équipe sportive pour nous donner plusieurs autres événements, jour, soir, on serait ravis parce qu'il faut vraiment rentabiliser ces gros actifs-là. Alors moi, j'aimerais ça. Je trouve que ça serait une bonne idée.
Est-ce que vous regardez avec intérêt l'univers du e-sport? Est-ce que la possibilité de faire l'acquisition d'une franchise, comme c'est le cas dans plusieurs marchés, vous intéresse? C'est quelque chose que vous regardez?
Ben, en fait, je te dirais, Mario, on suit ça avec intérêt. Hein. Le e-sport, c'est vraiment, je dirais que c'est une industrie maintenant, certainement, qui est en évolution. C'est assez fulgurant ce qui se passe là-dedans. Il y a des équipes professionnelles qui sont propriétaires d'équipes de e-sports, beaucoup dans la NBA, quelques-unes aussi, dans d'autres sports.
Mm-hmm.
Alors,
le Overwatch League, notamment.
Exactement.
Ça, il y a une franchise à Toronto.
Leagues of Legends.
Je ne sais pas si MLSC, par exemple. Là.
Non, je ne crois pas.
Non,
je ne crois pas.
Okay.
Mais Leagues of Legends, alors il y a plusieurs ligues, bien sûr. Alors, on regarde ça avec intérêt, puis on suit ça avec attention, parce qu'on veut voir comment ça se passe.
On est conscient, sans aucun doute, parce que vous faites des études démographiques, d'ici 2025, là, il y aura plus de 40% de la population de Montréal qui sera pas née ici. Et là, je pense qu'on peut tirer, peut-être les chiffres sont pas les mêmes quand on va dans le 4-5-0, mais est-ce que c'est la victoire qui est l'outil principal pour séduire les nouveaux arrivants, la nouvelle clientèle, ou il y a d'autres façons? Est-ce qu'il y a une réflexion chez vous par rapport à ça?
Ben, il y a une réflexion chez nous. D'ailleurs, il y a aussi une réflexion au niveau de la Ligue nationale, hein, qui, elle, aussi réalise que, comme le marché hispanique aux États-Unis est énorme, et donc la Ligue veut s'en aller faire des choses peut-être plus en espagnol. Évidemment, c'est très anglophone dans le moment, aller plus vers l'espagnol. Nous aussi, on suit ça, puis on essaie de voir comment on attire ces gens-là qui font partie de notre population, puis qui pour plusieurs aussi, aiment le hockey. Et c'est une super belle façon pour eux aussi de s'immiscer dans l'environnement puis discourir sur les victoires du Canadien.
J'ai surpris votre collègue Mark Whiteman hier en lui parlant, parce que c'était une simple logique, parce que c'est un édifice neuf, la Place Belge. Je me suis dit, normalement, les édifices neufs attirent un match des étoiles. Donc, le projet d'un match d'étoiles de la Ligue américaine à la Place Belge, c'est quelque chose qui est intéressant, que vous regardez de près aussi?
Oui, encore une fois, c'est quelque chose qu'on regarde de près. On va voir si c'est possible d'amener ça éventuellement.
Oui. Et êtes-vous content de la manière que ça fonctionne? Êtes-vous content de cette décision-là d'amener votre club-école tout près du Centre Bell, autant pour les opérations hockey que pour le reste? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour faire un bilan, mais est-ce qu'on... C'est une tendance partout dans la Ligue, là, puis je pense que ça rapporte du succès, mais vous êtes content de ça?
Oui, on est content. C'est sûr qu'on est content. La proximité pour les opérations hockey, ça, ça n'a presque pas de prix pour eux. Alors, on est absolument content. Ça se passe bien à la Place Bell, puis... on va y présenter du bon hockey.
En terminant, France-Margaret Bélanger, juste pour faire écho là aux critiques, il y en a toujours des critiques chez le Canadien. Il y a comme un rapport parfois où les gens tentent de trouver les points faibles d'une organisation puis de faire un peu de capital là-dessus. Puis j'ai pas jugé des stratégies de tous. On a notre façon de faire ici au 98.5 pour les amateurs de sport. Mais souvent, une petite histoire peut devenir une grosse histoire. Et dans laquelle souvent les Canadiens n'ont pas toujours le rôle qu'on souhaiterait. Un peu le rôle, si je caricature un peu, du méchant. Là. Ouais. Est-ce que ça vous blesse à l'intérieur parce que vous faites beaucoup de bien par ailleurs? Et là, c'est pas pour faire la majorette, je sais que vous donnez de l'argent à la fondation, ouais, les hôpitaux, etc. Mais est-ce que à l'intérieur, entre vous autres, là, tu sais, quand il y en a pas de micro, puis il y en a pas de journaliste, là, des fois, là, ça vous met ça en beau joie le vert?
Mais ça dépend des histoires. Des fois, il y a des choses totalement purement farfelues puis anecdotiques. Là, des fois, on se demande bien comment ça que les gens portent attention à des choses comme ça. Mais ça vient avec la popularité, je crois. On est chanceux de pouvoir compter sur une base de partisans aussi large qui nous aiment, qui aiment vraiment le Canadien. Ces gens-là adorent le Canadien, adorent l'équipe. Alors, ça vient avec ce privilège-là.
Ça n'a pas été trop éprouvant. J'espère que cette demi-heure aux amateurs de sport, France-Margaret.
Ça m'a fait plaisir et je reviendrai si vous m'invitez à nouveau, Marie.
Ben, certainement, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne saison 2019-2020. Au plaisir de se reparler. C'était France-Margaret Bélanger, vice-présidente, chef des affaires commerciales avec le Canadien de Montréal. On vient dans un instant.